Universel, Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir l'Afrique, Le Monde Aujourd'hui, édition du mardi 1er juillet. Morgane Guiriec au micro.
Et chez Robin Lorsil.
Au sommaire ce soir, un attentat fait au moins 15 morts à Maïdougouri, dans le nord du Nigeria.
Les actions proposées par ONIFAM sont des actions qui sont très pertinentes, notamment les unités de prise en charge des survivants de violences basées sur le genre.
Nous parlerons de la violence contre les femmes centrafricaines réfugiées dans l'est du Cameroun.
En RCA, au moins 16 morts et 4 blessés dans des affrontements à l'est du pays.
Riposte musclée de l'armée israélienne suite à l'assassinat de 3 jeunes otages de l'État hébreu en Cisjordanie.
Reprise des combats dans l'est de l'Ukraine, Moscou sous la menace de nouvelles sanctions occidentales.
Dans notre segment spécial sur la Coupe du Monde,
l'Argentine élimine la Suisse de justesse et les États-Unis s'apprêtent à défier la solide formation belge dans une demi-heure. D'abord, le journal.
Un attentat à la voiture piégée dans le nord du Nigeria a fait au moins 15 morts aujourd'hui. Les témoins sont certains que le nombre de victimes devrait être plus élevé. Jean-Roger Bian.
L'attentat s'est produit dans un marché populaire de Maïdougouri. Les explosifs ont été placés sous du charbon de bois à l'arrière d'une fourgonnette. La déflagration était si puissante, selon les témoins, qu'elle a projeté certains corps sur les toits des bâtiments et mis le feu à plusieurs véhicules. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais les autorités n'ont pas tardé à accuser Boko Haram. Le groupe radical islamiste, qui a ses racines à Maïdougouri, est blâmé pour la mort de milliers de personnes depuis 2009. Le dimanche, des militants islamistes présumés ont tué plus de 50 personnes dans 4 villages autour de Chibok, la localité où plus de 200 lycéennes ont été enlevées à la mi-avril. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a condamné hier les attaques horribles perpétrées par Boko Haram dans le nord du Nigeria.
En RCA, au moins 16 morts et 4 blessés dans des affrontements dans l'est du pays. Les combats ont opposé à Kono, dans le Mbomou, un groupe d'ex-CDK à des éléments des forces armées ougandaises déployées dans la région pour lutter contre la LRA. Le point avec Idriss Fall.
Les affrontements ont débuté dimanche suite à une incompréhension entre militaires ougandais et ex-CDK. Les soldats ougandais se sont opposés à l'installation d'une barrière dans le village de Kono où la présence de la LRA est régulièrement signalée. Les premiers accrochages ont duré quelques heures et ont fait un mort dans chaque camp. Une équipe des ex-CDK DPCR en renfort est tombée dans une embuscade tendue par les soldats ougandais à quelques kilomètres de Kono. Bilan, 14 combattants CDK tués, un véhicule calciné et 4 blessés côté ougandais. Le calme est revenu ce matin dans la localité. Par ailleurs, le premier ministre André Zapayeke est rentré cet après-midi à Bangui après une tournée en Turquie et en France.
Les États-Unis imposent des sanctions contre les ADF, un groupe rebelle ougandais actif en République démocratique du Congo. Washington accuse ces insurgés de viols, meurtres et enlèvements ciblant les enfants. Les États-Unis emboîtent ainsi le pas au Conseil de sécurité de l'ONU, qui a également pris hier des sanctions contre les rebelles ADF.
Le puissant syndicat sud-africain de la métallurgie, NUMSA, a entamé aujourd'hui une grève illimitée devant impliquer quelque 220 000 employés du secteur de l'acier et des constructions mécaniques. Le point avec Bagassikoura.
Le mouvement devrait, selon NUMSA, le puissant syndicat de la métallurgie, toucher plus de 10 000 compagnies et affecter rapidement des entreprises de l'automobile qui risquent de se trouver privées de pièces détachées. Selon l'AFP, NUMSA demande notamment 12 % d'augmentation de salaire. Les employeurs offrent une augmentation de 7 à 8 %, ce que rejette le syndicat. La ministre du Travail, Wilfred Oliphant, a essayé en vain de mener des discussions de dernière minute pour empêcher ce débrayage qui pourrait précipiter l'économie dans la récession. Ce mouvement survient juste après une très longue grève de 5 mois dans les mines de platine.
Selon l'agence France-Presse, Al-Shabaab revendique une série d'attaques à Mogadiscio, la capitale somalienne. Ces insurgés islamistes disent avoir tué plusieurs soldats gouvernementaux. 5 attaques ont été rapportées hier, dont l'explosion d'une bombe dans un marché de la capitale.
bousculade dans une école de Marrakech au Maroc. D'après l'AFP, le drame qui a fait 2 morts et 10 de blessés s'est produit hier soir lors d'une prière au premier jour du Ramadan. L'origine de l'incident est indéterminée.
En Égypte, 5 cadres de la coalition islamiste soutenant le président Mohamed Morsi ont été arrêtés. L'agence France-Presse cite des responsables des services de sécurité affirmant que des manifestations sont prévues dans 2 jours à l'occasion du premier anniversaire de la destitution de M. Morsi par les militaires.
L'ONU annonce une diminution des rations alimentaires en Afrique pour quelque 800 000 réfugiés. L'organisation évoque un manque de fonds. La situation est particulièrement critique au Tchad où les rations sont parfois réduites de 60%.
Un cabinet d'avocats suédois indique avoir déposé mardi à Stockholm une plainte pour crime contre l'humanité à l'encontre des dirigeants de l'Érythrée, dont le président Isaias Afewerki. C'est ce qu'annonce l'agence France-Presse. La plainte est la première du genre en Suède, où le crime contre l'humanité vient d'être introduit dans le code pénal suédois.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les troupes israéliennes ont attaqué à l'explosif les domiciles à Hébron des 2 hommes soupçonnés d'avoir enlevé 3 adolescents israéliens. Les corps de ces jeunes ont été retrouvés lundi, près de 3 semaines après leur disparition. Jacques Aristide.
La tension est de nouveau montée d'un cran. L'État hébreu accuse les suspects Amer Abou Aïché et Marwan Kouamesmé de faire partie du Hamas. Le groupe militant palestinien a toutefois nié toute implication dans le rapt et meurtre des 3 jeunes israéliens. Ils ont été retrouvés morts près de Halloul, où ils ont été vus pour la dernière fois, c'était le 12 juin, faisant de l'autostop. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou affirme que le Hamas en paiera un lourd tribut. Ce mardi, l'aviation israélienne a bombardé la bande de Gaza alors que des soldats ont mené des raids en Cisjordanie. Depuis l'enlèvement des adolescents, des centaines de Palestiniens, membres du Hamas, ont été arrêtés. À Washington, le président américain Barack Obama a condamné les meurtres et appelé toutes les parties à la retenue pour éviter une nouvelle escalade de la situation.
Le Parlement irakien a terminé sa première session sans élire un nouveau Premier ministre, Nathalie Barge.
C'est la première fois que ce Parlement se réunissait depuis les législatives d'avril dernier. Mais son président par intérim, Mahdi Al-Hafid, a mis fin à la session lorsqu'un certain nombre de députés sont partis après une pause. La session reprendra dans 1 semaine. Le Premier ministre Nouri al-Maliki était le favori pour un 3e mandat à la tête de l'Irak après les élections. Mais il y a une nouvelle donne depuis la conquête de larges pans du territoire irakien par les militants de l'État islamique en Irak et au Levant. Les dirigeants occidentaux ont exhorté les Irakiens à former un gouvernement inclusif pour contrer les divisions sectaires entre chiites, sunnites et kurdes.
En Ukraine, les forces gouvernementales ont lancé de nouvelles opérations ce mardi contre les séparatistes dans l'Est russophone, quelques heures après l'expiration du cessez-le-feu. Le président Petro Poroshenko a juré de reprendre les territoires contrôlés par les rebelles. Washington et ses alliés européens accusent Moscou d'armer les séparatistes, ce que rejette le président russe Vladimir Poutine. Il accuse directement M. Poroshenko pour la reprise des hostilités. La Russie est sous la menace de nouvelles sanctions occidentales pour n'avoir pas soutenu le plan de paix de Kiev.
L'une des plus grandes banques de France a accepté de verser aux États-Unis une amende de près de 9 milliards de dollars pour violation des sanctions commerciales américaines prises contre le Soudan, Cuba, l'Iran et Myanmar, appelée aussi la Birmanie. BNP Paribas a plaidé coupable tout en disant que l'amende n'aura qu'un impact mineur sur la santé financière globale de l'institution. C'est l'amende la plus sévère jamais imposée par les États-Unis dans un cas pareil.
En France, l'ancien président Nicolas Sarkozy est en garde à vue. Il est interrogé sur une affaire de trafic d'influence qui pourrait compromettre son retour politique. Anne-Marie Botkevich.
Les enquêteurs se demandent si M. Sarkozy a reçu illégalement des fonds du dirigeant libyen Muammar Kadhafi pendant la campagne présidentielle en 2007. Il est soupçonné aussi d'arbitrage litigieux en faveur de l'homme d'affaires Bernard Tapie et dans une histoire de fausse facture de la société Big Malion. Nicolas Sarkozy est cité dans une 12aine de dossiers judiciaires. Il s'est rendu de lui-même ce mardi à un poste de police de Nanterre en banlieue parisienne. Il a nié toutes les accusations. Mais ce coup de théâtre pourrait compromettre son éventuel retour sur la scène politique.
Anne-Marie Bokowitz est l'une des stagiaires au service francophone de La Voix de l'Amérique. En Afghanistan, la publication des résultats préliminaires de la présidentielle n'aura pas lieu demain. Selon une source proche de la commission électorale indépendante, ils seront reportés à mercredi prochain, soit le 9 juillet. Le candidat qui est arrivé largement en tête au premier tour, l'ancien ministre des Affaires étrangères Abdullah Abdullah, a promis de rejeter ces résultats, arguant qu'il y a eu bourrage d'urne lors du second tour, le 14 juin. Il fait face à l'ancien ministre des Finances, Ashraf Ghani.
Au Japon, la réinterprétation de l'article 9 de la Constitution soulève une polémique. Cet article stipule que le pays renonce à la guerre, en vertu de la mesure adoptée aujourd'hui par le cabinet du Premier ministre Shinzo Abe. Les forces armées auront moins de restrictions et pourront exercer ce que Tokyo appelle le droit à l'autodéfense collective. Ce changement permettra au Japon de porter secours aux pays amis en cas d'attaque. La Chine et la Corée du Sud, victime de l'agression coloniale japonaise, s'y oppose. Voilà pour le journal. Morgane Guiriec et Chérubin Dorcil en votre compagnie. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. Place à la partie magazine de notre émission. Nous partons maintenant au Togo, Gabi.
Le Parlement a rejeté contre toute attente le projet de loi transmis par le gouvernement sur des réformes institutionnelles et constitutionnelles annoncées depuis 2006. Un non de la part des députés de la majorité a eu l'effet d'une déception sans surprise dans les rangs de l'opposition. Reportage à Lomé de notre correspondante Kayi Lawson.
Les députés du parti au pouvoir Union pour la République Unie ont dit non au projet de loi introduit par le gouvernement pour la modification de la Constitution. La limitation de mandat et les conditions d'éligibilité du président de la République sont les points saillants du texte soumis aux députés. Sur les 91 élus du peuple présents à la séance, 27 se sont prononcés en faveur du projet de loi, 63 voix contre et une abstention. Christophe Tchao, le président du groupe parlementaire Union, soutient que c'est l'opposition qui leur a forcé la main.
Nous, notre souci était d'amener cette opposition à mettre un peu d'eau dans leur vin, comme on le dit. Mais malheureusement, les lignes n'ont pas cédé. On n'a pas pu aller vers un compromis.
Le test ainsi rejeté ne suscite guère de surprise dans les rangs de l'opposition, affirme le député Dodia Pévon de la coalition Arc-en-Ciel.
La majorité au pouvoir n'a pas du tout envie de faire les réformes. Tout ça là, c'est des artifices. Parce que nous venons de faire le constat que ces gens-là, dans la configuration dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ne feront jamais les réformes.
Pour Isabelle Améganvi, présidente du groupe parlementaire ANC ADI, le rejet du projet de loi par la majorité justifie l'inquiétude de l'opposition qui ne voulait pas que la question des réformes soit débattue au Parlement.
Nous venons d'avoir de manière magistrale la réponse à l'interrogation que nous avions formulée avant, lorsque le chef de l'État avait dit qu'il fallait aller discuter à l'Assemblée nationale pour ce qui concerne les réformes. Nous venons de nous rendre compte que la consigne a été donnée pour que, lorsque ces modifications là viennent, qu'elles ne soient pas acceptées. Nous prenons acte et nous disons seulement que la lutte continue et elle va continuer de plus belle.
Au sortir de ce vote, le président de l'Assemblée nationale a regretté que le consensus n'était pas au rendez-vous des discussions parlementaires. Nous écoutons Dama Dramani.
Le consensus politique, à mon avis, loin d'être naturel, requiert de chaque acteur un effort de dépassement, condition sine qua non pour aller à la rencontre de l'autre. Le consensus politique n'est pas conformité, suivisme ou naïveté. Il a besoin de réalisme politique pour prospérer.
Le projet de loi ainsi rejeté, les Togolais doivent-ils dire adieu aux réformes tant attendues par l'opposition? Kayla Sol, Lomé pour La Voix de l'Amérique.
Bonjour, c'est Nicolas Pineau de Sporama sur La Voix de l'Amérique. La Coupe du Monde au Brésil, non-stop, sur votre portable. C'est possible, allez sur voabrésil2014.com. Les matchs en direct, résultats, photos et vidéos de cet événement planétaire à partager avec vos amis sur Facebook et Twitter. La Coupe du Monde non-stop, c'est sur voabrésil2014.com.
L'ONU indique que la violence contre les femmes centrafricaines réfugiées dans l'est du Cameroun est très élevée et appelle Yaoundé à protéger les femmes et les enfants. Le correspondant de La Voix de l'Amérique, Moki Edwin Kinzeka, s'est rendu sur place. Voici son reportage, présenté par Michel Joseph.
Des milliers de personnes continuent d'affluer vers le Cameroun pour échapper à la violence en République centrafricaine. La plupart des 11 000 réfugiés à Gado, un village frontalier, sont des femmes. Duna Divina, âgée de 17 ans, témoigne.
Je venais avec ma mère, mes saints et nos saints amis. Quand on est parti en brousse, on nous a arrêtés et on nous a emprisonnés. Les gens avec les fusils, ils nous ont dit que si on tente de courir, ils vont nous tuer. On était là-bas pour 2 semaines.
Amabel Ndi Fortna, une infirmière onusienne, précise que les femmes et les filles sont victimes de violences également à l'extérieur des camps.
Since the place is a cattle raising zone, the meat people take care of cattle.
Comme l'élevage est pratiqué dans la zone, elle rencontre des gardiens de bétail qui abusent d'elle sexuellement. Beaucoup d'entre elles ont déjà vécu auparavant des situations très difficiles et certaines arrivent ici enceintes.
Le docteur Jacques Quepeu, de Médecins sans frontières, souligne que beaucoup de victimes souffrent d'infections sexuellement transmissibles, dont le sida.
Nous observons parfois des cas très critiques, tels que des lacérations vaginales, des ecchymoses, ce qui montre qu'il s'agissait bien d'un rapport forcé commis par plusieurs personnes. Certaines femmes ont témoigné de viols collectifs.
La représentante de l'ONU pour les femmes au Cameroun, Rachel Mian Djagon.
Les actions proposées par ONIFAM sont des actions qui sont très pertinentes, notamment les unités de prise en charge des survivantes de violences basées sur le genre, parce qu'on a vu beaucoup de femmes dans des situations de détresse extrême. Les mesures en rapport avec le renforcement des capacités économiques, avec la création des petites activités génératrices de revenus. Et nous aurons aussi des animateurs sociaux et des travailleurs sociaux qui vont être directement sur le site ici au niveau de Gado pour accompagner la mise en œuvre effective de ces activités.
Messanga Alvino, conseiller du chef traditionnel de Gado, déplore le manque de moyens des hôpitaux de la région.
Médecins sans frontières a installé il y a environ 11 tentes, donc 3 tentes pour l'hospitalisation, les gens qui sont déjà vraiment malades. Parce que c'est des gens qui ont fait 700, 600 kilomètres pour arriver à la frontière du Cameroun et trouver un peu de la paix. Le centre de santé, 15 lits. Le centre hospitalier, ça, 100 lits. Ça permet au moins de la prise en charge. Et puis, le Médecins sans frontières a 58 lits.
Mahamat Al-Hadi, un planificateur de site à Gado, dit que le HCR tente d'organiser de meilleures conditions de vie dans les camps de réfugiés pour réduire les attaques sur les femmes et les filles.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Au Soudan du Sud, Médecins sans frontières s'alarme du niveau de violence contre des blessés, des membres du personnel de santé ou des infrastructures.
Sur les 6 derniers mois, explique l'ONG, plusieurs hôpitaux ont été pillés ou complètement détruits et une 60aine de patients ont été tués sur leur lit d'hôpital. Claire Morin-Gibourg a joint Raphaël Gorgeux, chef de mission de MSF au Soudan du Sud.
Nous avons pu voir là depuis le début du conflit et même avant au Sud-Soudan que les soins de santé étaient assez peu respectés avec des hôpitaux qui sont soit pillés, soit détruits, des travailleurs de santé qui sont actuellement menacés. Donc on voulait faire le point sur des données et des événements qu'on a pu enregistrer sur les 6 derniers mois du conflit. Et l'idée de ce rapport-là, c'est d'amener de l'attention sur ce sujet de la protection des soins de santé au Sud-Soudan, mais également de continuer à engager un dialogue avec toutes les parties prenantes au conflit, mais également avec d'autres organisations, pour essayer justement de trouver des solutions et faire en sorte que les soins de santé au Sud-Soudan peuvent être mieux respectés.
Est-ce que la situation au Sud-Soudan est particulière et différente ? Est-ce que vous avez constaté plus de violence ?
Chaque contexte est de fait très différent, mais la situation au Sud-Soudan est très alarmante, d'un point de vue humanitaire, avec des besoins très importants. C'est vrai que le conflit sur ces 6 derniers mois a aussi montré des violences très, très inquiétantes. À titre d'exemple, on a déjà eu 2 hôpitaux MSF qui se sont fait détruits, qui se sont fait piller, qui se sont fait brûler. Et la conséquence de tout ça, c'est qu'un hôpital qui est détruit, une ambulance qui est brûlée, un staff de santé qui est tué, la conséquence, c'est des milliers de personnes qui sont privées de soins de santé.
Est-ce que cette situation pourrait vous conduire à arrêter de travailler au Sud-Soudan, à vous retirer du pays ?
MSF, depuis 6 mois, a énormément augmenté ses opérations dans le pays. En effet, les besoins sont très importants. Aujourd'hui, il n'y a absolument pas de question sur la présence d'MSF au Sud-Soudan. Mais après, si on regarde projet par projet, hôpital par hôpital, un hôpital détruit, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens pour arriver à reconstruire quelque chose, arriver à apporter justement de l'assistance aux différentes personnes sur place. Donc il n'est pas question pour MSF aujourd'hui de quitter le Sud-Soudan. Par contre, on voulait vraiment souligner l'impact que peuvent avoir des attaques directement liées aux structures de santé.
Raphaël Gorgeux, chef de mission de MSF au Soudan du Sud.
Le journal de la Coupe du Monde, tous les jours sur nos antennes avec Bega Sikora, ses invités et bien sûr notre envoyé spécial au Brésil, Nicolas Pino, qui est à Salvador ce soir. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous. Suite et fin donc des 8e de finale et on retrouve tout de suite notre envoyé spécial au Brésil, Nicolas Pino. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Bagassi, bonsoir Chérubin.
Bonsoir Nico.
Voilà, on voit les joueurs entrer sur l'aire de jeu hein, pour le dernier match des 8e et c'est entre les États-Unis et la Belgique, Nicolas.
Et oui, un grand moment hein, pour les Américains qui vont essayer de se qualifier pour les quarts de finale. On se souvient qu'ils avaient échoué, évidemment, c'était en 2010 contre les Ghanéens. Battus 2-1, là encore, les Américains ne partent pas favoris hein, dans cette rencontre, puisque les Belges qui ont terminé premier de leur groupe H sont les favoris. Oui, mais voilà, les Américains et leur entraîneur Jürgen Klinsmann veulent prouver au monde qu'ils ont des arguments à défendre. Et on l'a vu, évidemment, tout au long de ce tournoi, Bagassi, les surprises ont été nombreuses. Alors pourquoi pas ? Pourquoi pas, évidemment. En tout cas, les Américains y croient.
Oui, ils y croient vraiment. Et Chérubin, vous l'avez vu ici à DC, hein, on a mis un peu des écrans géants
un peu partout
dans la ville.
C'est la grande fête, Nicolas, il faudrait voir ça. Mais vous avez raison de dire que la Belgique est favorite pour ce match. Je crois que les Belges ont gagné plus de 12 matchs internationaux d'affilée, non ?
Et tout à fait. Et surtout, il faut noter que c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément impressionné sur le premier tour, mais c'est l'une des rares équipes à avoir 9 points, comme la Colombie par exemple. Ils ont fait 3 fois la différence, parfois sur la fin de rencontre. Et évidemment, avec leur star Eden Hazard, on attend beaucoup d'eux. C'est vrai que techniquement, ils sont supérieurs à cette équipe américaine. Mais attention, on l'a vu le match précédent cet après-midi, le favori peut avoir du fil à retordre.
Au moins, oui. Dempsey ne sera pas seul, Bagassi, à la pointe de l'attaque américaine.
C'est ce que j'ai cru comprendre, oui, il sera
Est-ce
seul.
Est-ce que Altidore sera aligné ?
Lui sera sur le banc, je crois. Nicolas, vous confirmez ?
Oui, je confirme, Bagassi, Altidore sur le banc. Mais c'est vrai qu'on va surtout voir ce qui va se passer, étant donné qu'Altidore revient de blessure. Alors forcément, l'entraîneur Jürgen Klinsmann a voulu prendre évidemment des précautions. Et c'est le Nantais Alejandro Bedoya qui est reconduit dans le couloir droit.
Le Nantais
et... Oui, tout à fait. Évidemment, Clint Dempsey, vous l'avez dit, sera en pointe.
Et donc, Nicolas, hein, avant ce match, il y avait donc cette rencontre entre l'Argentine, qui s'est qualifiée quand même difficilement devant une équipe très résistante de Suisse, 1-0.
Et oui, Bagassi, encore un des favoris qui a été chahuté, hein, tout comme les Pays-Bas, évidemment, face au Mexique. Les Argentins qui se sont imposés dans les prolongations. Un but de Di Maria, l'infatigable milieu de terrain. On parle souvent de Lionel Messi, mais Di Maria, c'est vraiment la pièce maîtresse de cette équipe argentine. Et le but décalé sur la droite, évidemment, grâce à Lionel Messi qui a offert un caviar à Di Maria. Mais les Suisses n'ont pas démérité.
Alors, Nicolas, une question. Chérubin, vous l'avez certainement remarqué hier, hein, les Brésiliens supportaient les équipes africaines, d'abord contre la France, ils supportaient le Nigeria, et ensuite contre l'Allemagne, ils supportaient l'Algérie. Nicolas, est-ce qu'aujourd'hui les Brésiliens étaient contre l'Argentine?
Ah, toujours Bagassi, hein, c'est la grande, évidemment, c'est la grande rivalité. Alors après, il faut savoir qu'il y a énormément d'Argentins, hein, qui vivent ici au Brésil et qui sont venus. Alors c'est vrai qu'à chaque match, évidemment, de l'équipe argentine, on a du bleu et blanc un peu partout. Mais le scénario rêvé, et on l'avoue à moitié ici, c'est évidemment une finale Argentine-Brésil au Maracana. Et tous les Brésiliens espèrent une défaite, évidemment, des Argentins. Mais on n'en est pas là, hein. L'Argentine, en tout cas, qui a eu du mal, hein, pour venir à bout des Suisses. Et ça prouve, Bagassi, encore une fois, que cette Coupe du Monde est pleine de surprises. Et en quart de finale, cette tendance devrait se confirmer.
Alors, lors de des compétitions de ce genre, c'est souvent la valse des entraîneurs. Il y a eu l'entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire qui lui a préféré donc ne pas retourner en Côte d'Ivoire. Il est parti. Et Nicolas, maintenant, c'est Stéphane Keshi qui, lui, ne veut pas. C'est lui, volontairement, il ne veut plus continuer avec les Super Eagles. Aime aussi cet entraîneur à qui on n'a souvent pas donné tous les moyens pour bien faire son travail.
Non, et vous vous souvenez, Bagassi, hein, qu'avant la Coupe du Monde, l'entraîneur Stéphane Keshi avait 6 à 7 mois d'arriéré de salaire avec les Super Eagles.
Oui, ouais.
Stéphane Keshi, pas vraiment récompensé, hein. Il est l'homme qui a évidemment offert le titre à la sélection en 2013. Évidemment, on s'en souvient, c'était contre le Burkina Faso en finale. Mais évidemment, Stéphane Keshi, ce sera une grande réussite africaine, hein. Évidemment, l'un des seuls joueurs, peut-être
le seul
joueur africain à avoir gagné en tant que joueur et en tant qu'entraîneur un match de Coupe du Monde, et surtout un Nigérian qui amène son pays aussi loin dans une compétition. Je crois qu'on peut le féliciter, mais Bagassi, c'est surtout la fin d'un cycle pour les Super Eagles, et il est normal, généralement, en cas de défaite, que les entraîneurs passent la main.
Voilà, et Nicolas, on a essayé d'avoir l'avis d'un entraîneur sur Stéphane Keshi. Il s'agit du Béninois Eustache d'Almeida. Il est l'entraîneur de moins de 20 ans du Bénin. Alors, on me dit que Stéphane d'Almeida n'est pas disponible au sujet de Stéphane Keshi. Et donc Stéphane Keshi, qui est âgé de 52 ans, et selon certains, il est pressenti pour prendre les rênes de la sélection sud-africaine. On écoute donc Eustache d'Almeida.
L'adage, on ne met prophète que soit vérifié. Parce que si vous voyez la situation qui se passe avec Keshi, on n'a jamais confiance en lui, tout simplement parce qu'il est noir. Alors qu'il a eu la chance de défendre les couleurs du Nigeria pendant des années en tant que capitaine. Il a montré ses preuves en commençant petit à petit avec le Super Eagle. Aujourd'hui, il a gagné la Coupe d'Afrique avec le Super Eagle pendant que d'autres États africains se déchiraient à mettre plus de 11 millions de francs CFA dans des entraîneurs étrangers qui encore ne connaissaient même pas la sociologie et la psychologie du pays et qui venaient comme des prophètes. Le petit génie de Stéphane Keshi et la volonté de vaincre des Nigériens, des joueurs nigériens, a permis de tenir tête à la France.
Voilà, c'était donc le sélectionneur de moins de 20 ans du Bénin, Eustache d'Almeida. On retrouve encore notre envoyé spécial au Brésil, Nicolas. L'équipe de Belgique, vous l'avez dit, elle est très très technique comparée à son adversaire du jour, les Américains. Mais il faut dire qu'ils auront en face une équipe entraînée par Jürgen Klinsmann qui a su insuffler la combativité et l'esprit d'équipe à cette sélection américaine.
Et oui, tout à fait, Bagassi. Et sur le terrain, ça se voit. On avait vu les Américains poser énormément de difficultés à l'Allemagne. Et on a pu voir surtout les Américains évoluer en 4 ans, puisqu'il y a 4 ans, ils avaient perdu 2-1 contre les Ghanéens. Là, ils l'avaient emporté 2-1 contre les Black Stars. Donc c'est vrai qu'il y a une évolution sur cette équipe. Et on sent qu'à tout moment, notamment sur les coups de pied arrêtés, ils peuvent faire la différence.
Voilà, et il faut dire que cette rencontre est arbitrée par l'Algérien Jamel Haïmoudi, assisté de ses confrères du Maroc et d'Algérie. Voilà, c'était donc notre envoyé spécial au Brésil, Nicolas Pino. Bonsoir, Nicolas.
Bonsoir, Bagassi. Et allez les États-Unis. Hein.
Voilà, allez les États-Unis. Team USA.
Ouais, let's go USA. Merci, Bagassi Koura. C'était le journal de la Coupe du Monde sur la Voix de l'Amérique.
Ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. C'était au micro Morgan Guiriec.
Et Chérubin Dorcy, l'on salue à la technique Tian Wang et Yemi Obajimi.
Voilà, à demain.
On se quitte en musique.
with you, baby, cause that's the way we like to do it. That's the way we like. You run around open doors like a gentleman. Tell me, girl.